Donc ce matin, alors le passage que nous allons voir, c'est dans 1 Timothée 6, verset 11. Je vous laisse regarder dans vos Bibles. Je suis désolé, je l'ai fait à l'ancienne, il n'y a pas de PowerPoint. Et donc avant de commencer la lecture, je voudrais vous raconter plutôt une histoire d'un chrétien, un ancien sikh, donc un chrétien indien du XXe siècle qui s'appelle Sadhu Sundar Singh. Et il racontait la chose suivante. Dans une province de l'Inde, les jeux de hasard étaient interdits. Une amende de 500 roupies punissait les contrevenants. Or, deux jeunes gens qui avaient la passion du jeu de dés avaient trouvé une cachette où ils pouvaient s'adonner en toute tranquillité à cette passion. L'un était le fils d'un riche commerçant. La mère de l'autre était veuve, pauvre et âgée. Malgré toutes leurs précautions, les deux jeunes furent surpris un jour par la police et emmenés en prison. Ils ne pouvaient être relâchés qu'après le versement de l'amende. Le riche commerçant versa immédiatement les 500 roupies, mais la pauvre veuve en était bien incapable et son fils resta en prison. Elle se mit alors à travailler du matin au soir pour gagner l'argent nécessaire. Elle transportait de lourdes pierres qui, parfois, retombaient sur ses mains, les déchiraient et les faisaient saigner. À travers la fenêtre de sa prison, le jeune homme vit les mains de sa mère et demanda « Mère, quelles sont ces blessures sur tes mains? Pourquoi y a-t-il du sang sur tes doigts ?»« C'est que je travaille pour te délivrer, » dit la mère. Et elle lui expliqua le labeur auquel elle se livrait. Enfin, elle put réunir 500 roupies et libérer son fils. Quelque temps après, le jeune homme riche rencontra son compagnon de jeu et l'invita à recommencer une nouvelle partie de dés. Et le jeune homme pauvre répondit « Je ne pourrai plus jouer dorénavant. Ton rachat a été facile, mais moi, j'ai été sauvé par le dur travail de ma mère, par sa peine, par les blessures de son corps, par son sang. À l'avenir, je ne pourrai même pas jeter un regard sur ce jeu qui a porté tant de souffrance à ma mère. » Et voici comment concluait le Sadhu de son histoire pour bien faire comprendre sa pensée. Il disait « Ceux qui croient, comme le jeune homme riche, que le salut s'obtient sans peine n'ont pas assez de force pour renoncer au péché. Mais ceux qui ont compris que Dieu s'est incarné et qu'il a versé son sang précieux pour nous sauver, ceux-là ne voudront pas commettre la faute qui a causé tant de souffrance à leur Dieu. » Donc cette histoire nous aide à comprendre le privilège que nous avons de pouvoir vivre en Jésus-Christ. C'est un privilège de pouvoir être en communion avec lui. Et tout cela est dû par notre Dieu qui est saint. Nous avons un Dieu saint, et par sa sainteté, il a envoyé son Fils unique mourir à la croix pour nous. Et par le moyen de la grâce, par le moyen de la foi, nous pouvons entrer en relation avec ce Dieu qui est saint. Et comme le jeune homme pauvre, après que sa mère ait payé sa dette, il n'a plus aucune envie de revenir sur ses mauvaises bases, sur sa mauvaise nature. Et nous qui sommes saints, si nous participons à la grâce de la sainteté de notre Créateur, c'est dans notre union à son Fils Jésus-Christ et par une foi authentique que le pardon, la réconciliation, la justification et la sanctification dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ devient pour nous donc une réalité. John Frame, un théologien américain, a dit à ce sujet, au sujet de la sainteté de Dieu, qu'elle se manifeste de trois manières envers nous. La première se manifeste dans le fait que Dieu est créateur et qu'il contrôle toutes choses. La seconde est qu'elle se manifeste par sa communication verbale par laquelle il entre en communion avec ses créatures et par laquelle il manifeste sa présence. Et la troisième se manifeste par sa justice, dont il est l'ultime référence, et par laquelle il manifeste son autorité à ses créatures. Je répète, Dieu contrôle toutes choses. Il est là par sa présence, par son Fils, par son Saint-Esprit, et il manifeste son autorité sur sa création. Mes amis, si cette sainteté, vous aussi, vous l'avez reçue avec grâce, par la foi, aujourd'hui, elle nous permet d'avoir la joie de pouvoir vivre en communion avec Jésus-Christ. comme le dit Éphésiens 2 au verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Présent, je vais vous poser une question ce matin. Est-ce que nous vivons cette sainteté au quotidien, maintenant que nous l'avons reçue? Est-ce que nous la poursuivons aussi jour après jour? Je vais lire le passage de ce matin, 1 Timothée 6, verset 11. « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. » Ce verset caractérise le croyant par deux actes de vie concrets pour fuir la mondanité par la poursuite d'une vie véritablement comblée de richesses spirituelles. Le premier acte de vie concret, la première caractéristique du croyant, est qu'un homme et une femme de Dieu se reconnaît pour ce qu'il fuit. Et la seconde est qu'un homme et une femme de Dieu se reconnaît pour ce qu'il recherche. Dans ce verset, Paul invite Timothée à être un homme loyal, qui fuit les choses vaines et qui recherche ce qui honore Dieu. Ici, Paul exhorte Timothée à rester fidèle dans la perspective et l'espérance que Jésus-Christ reviendra. On le voit dans les versets suivants, du verset 12 au verset 16. Arrêtons-nous sur les premiers mots. « Pour toi, homme de Dieu ». C'est un terme qui est valorisant, qui est lourd de sens pour Timothée et qui donne du poids à son ministère à Éphèse. Il faut savoir que certains membres de l'église d'Éphèse, si je peux le dire vulgairement, étaient relous, étaient embêtants. Et donc c'était des personnes qui contestaient souvent l'autorité, qui contestaient aussi l'autorité de la Bible. C'est aussi une église où ils faisaient profit de la piété, profit de la parole, et cherchaient du coup à gagner de l'argent. Timothée aussi avait un autre problème, c'est qu'il était jeune. Souvent, on pense qu'il avait 15 ans, 20 ans, mais non, Timothée avait environ dans la trentaine, et pour l'époque, c'était très jeune. Et donc, il était un très jeune responsable. Donc, il avait tout à gagner. Il fallait qu'il gagne le respect, et il fallait qu'il gagne en crédibilité. Donc, en résumé, c'était une église qui mettait davantage l'accent sur la religiosité, et qui mettait en opposé une bonne vie de piété. Donc Timothée se trouve dans une situation difficile entre l'enseignement de la parole de Dieu, qui n'est pas accepté par tous, et son jeune âge, ce qui fait de lui un très jeune responsable, je le répète. La solution que Paul lui donne est qu'il puisse devenir un exemple de piété pour tous. Il lui dit au chapitre 1, verset 5, « Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. » Pour toi, homme de Dieu, donc c'est un titre qu'on l'utilise souvent aujourd'hui pour nommer les croyants, mais pourquoi Paul donne-t-il ce titre à Timothée? Alors que lui-même ne s'est jamais nommé de la sorte, quand on regarde dans le Nouveau Testament, aucun homme ne se fait appeler homme de Dieu, mis à part Timothée, dans sa première lettre et dans la deuxième lettre à Timothée. Donc on peut se poser la question, dans quel but Paul a-t-il donné ce titre à Timothée? Dans l'Ancien Testament, le premier homme qui fut appelé homme de Dieu fut Moïse, lui le grand libérateur du peuple de Dieu. Puis d'autres comme Jérémie, Élie, Élisée, qui ont été des prophètes pour le peuple d'Israël, à qui Dieu leur a confié une mission qui est très importante, celle de proclamer la parole de Dieu. Et même David, lui le roi prophète, a obtenu ce titre. Donc c'est vraiment un grade honorifique que Paul donne à Timothée. C'est une manière pour lui de rappeler sa mission, pour lui rappeler que sa mission est importante et qu'il doit s'inspirer de ses prédécesseurs, qui ont obtenu la même mission avant lui, celle de proclamer la parole de Dieu à son peuple. Donc au final, Paul, ayant la connaissance de ce titre, lui qui était un expert de la loi, un ex-pharisien, Il utilise ce titre pour le qualifier et pour encourager à suivre la voie que Jésus-Christ nous a ouverte par le biais de son sacrifice. Pour tout vous dire, Timothée est un homme comme vous, comme moi, donc un homme pécheur. Donc Paul a sûrement fait exprès d'employer ce terme pour le dire aussi de manière imagée, pour lui redonner du poil de la bête. C'était un moment où il était fatigué, un moment où il était méprisé, un moment où il n'en pouvait plus. Et là, dans cette lettre, Paul lui redonne comme un nouveau souffle avec ce titre. En gros, Paul lui dit, pour toi, homme de Dieu, successeur de Moïse et des prophètes. C'est de cette manière qu'il encourage à être un bon prédicateur dans son Église. Donc Paul l'appelle à prêcher la parole comme ses prédécesseurs l'ont fait. Et sa tâche est bien grande, il doit rétablir l'ordre à Éphèse. Et pour nous aujourd'hui, nous qui vivons sous l'appellation de chrétiens, qui allons à l'Église et faisons de bonnes œuvres, pourrait-on combattre le bon combat de la foi comme Paul le pousse à faire au verset suivant? Ou baisserions-nous les bras? L'homme de Dieu, dans un sens plus large, qualifie tous les croyants, que ce soit un homme, que ce soit une femme, qui viennent d'horizons différents, de cultures différentes. Il désigne tous ceux qui se dévouent entièrement à Dieu, plaçant Dieu avant le monde, avant les hommes et avant soi-même. C'est celui qui, par sa vie, proclame la parole de Dieu. Et nous pouvons tous l'être par la grâce de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Par contre, ce titre se mérite. Et nous allons le voir à présent. Je vais relire la première partie de ce passage. « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. » Comment reconnaît-on un homme et une femme de Dieu? Premièrement, nous voyons qu'on le reconnaît parce qu'il fuit. Donc, être connu pour être un fuyard, c'est pas cool, hein. Mais ici, la notion de fuir n'est pas à prendre au sens négatif, mais bien au sens positif du terme. Ici, fuir, du grec phugos, veut dire être sauvé par la fuite ou se mettre hors de danger. Dans le contexte de ce passage, il est demandé à Timothée de fuir ces choses. Mais quelles sont ces choses? Donc c'est l'erreur doctrinale et la cupidité, l'avarice qu'il y avait dans cette église. Donc c'était une église en fait qui se situait dans une des villes les plus importantes d'Asie mineure, qui avait le port aussi le plus important de l'Asie mineure. Et c'était une ville qui était connue pour être très païenne. On y dédiait un culte à la déesse Artemis ou Diane. Et donc c'était la déesse de la fertilité. Et la majorité des prêtres qui faisaient ces cultes à cette déesse étaient souvent cupides et avares. Donc on peut penser que certains de ces chrétiens qui composaient l'église d'Éphèse étaient encore bien impliqués dans leur culture, dans cette culture païenne. Et nous, aujourd'hui, on peut le voir d'un autre œil, on peut se dire, mais ça c'était avant, c'est passé. Nous, il n'y a pas de problème au niveau de la doctrine, il n'y a pas de problème au niveau de la cupidité. Mais je vais vous donner un exemple concret, un exemple personnel. Moi, avant de venir à l'IBG, je travaillais chez Apple, je vivais chez mes parents, et donc du coup, bah, forcément, comme on dit chez moi, on coffre, on met de côté. Et donc, moi, ma vision, c'était d'avoir une bonne voiture, d'avoir une belle maison, et de construire ma vie, hein, j'ai tout à construire. Et derrière, je laissais l'église, de temps en temps, je mettais 5 euros, 20 euros, allez, aujourd'hui, j'ai bien fait. Et en fait, ça ne marche pas comme ça. Et ça, c'était une part de cupidité aussi de ma part. Et c'est ici, à l'IBG, je me suis rendu compte que, en tant que jeune, dans le milieu professionnel, je n'ai pas pris assez à cœur de pouvoir donner. Et donc, c'est aussi une joie de pouvoir donner. Pour l'erreur doctrinale, nous, cette année, on a eu deux cours, hein, un cours d'herméneutique, donc, qui est l'étude des textes, comment les étudier, et d'homilétique, donc c'est la manière d'enseigner un texte biblique. Et donc, j'ai pu bien réaliser qu'on a vraiment besoin de s'intéresser à la parole dans toute sa globalité, que ce soit dans son contexte historique, dans la culture dans laquelle ça a été écrit, la manière dont la personne a écrit la lettre, par exemple Paul. Et donc on doit s'intéresser à toutes ces choses avant de pouvoir faire des erreurs. Et ça arrive bien souvent, on utilise souvent des versets qui sont hors contexte, comme on dit. Donc l'erreur doctrinale peut arriver très rapidement. Donc aussi, cela veut dire pour nous que nous n'avons pas à suivre aussi les mauvais penchants de notre culture. Bien sûr, il y a des bons côtés, mais aussi des mauvais côtés. Et ces mauvais côtés-là, il faut les rejeter. Et comment les voir ? À travers la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne, et c'est elle qui doit nous donner notre vraie culture. Plus qu'être panaméen, plus qu'être français, je dois être chrétien, je dois être enfant de Dieu. Et donc, ce que ma culture m'a appris, il y a des choses que je vais garder de bien et d'autres choses que je vais rejeter parce qu'elle est contraire à la parole. Et donc ça, c'était vraiment le gros problème qu'il y avait à Éphèse. Aussi, il faut bien comprendre que le verbe « fuir » ici a une notion de temps. Et ici, il démontre une certaine vitesse. On ne fuit pas lentement, mais rapidement. Quand je fuis, c'est que j'ai vu le danger et donc je cours le plus vite possible. Saviez-vous que les selfies font plus de morts que les requins ? Selon le 20 minutes, les selfies font plus de morts que les requins dans le monde. C'est le triste constat des chercheurs de l'Institut de sciences médicales basé en Inde qui ont comptabilisé dans une étude le nombre de personnes décédées dans le monde en voulant prendre un selfie. Entre octobre 2011 et novembre 2017, 259 personnes sont mortes en voulant se prendre elles-mêmes en photo, note cette enquête. Ces chercheurs indiens sont parvenus à ce chiffre en compilant des données de la presse mondiale. Ils ont cherché des mots-clés comme « mort par selfie » ou encore « accident de selfie ». Slate, un des chercheurs, a dit « comme les selfies ne sont jamais indiquées comme cause de mort dans les bases de données officielles, les scientifiques pensent même sous-estimer le nombre de morts ». Quel rapport avec fuir ? Eh bien, si je reprends les éléments de cette enquête, quand je suis dans l'eau et que je vois un requin, je nage le plus vite possible vers la côte, bien sûr. Et je ne me retourne pas pour ne pas perdre de temps. Alors que quand tu sais que le danger est imminent, tu ne vas pas prendre un selfie et dire « bah, on va voir avec le requin, ça va faire des abonnés sur Instagram, ça va être sympa ». Non, on nage le plus rapidement possible, on veut fuir le danger. Quand on voit le danger, on fuit, c'est évident, c'est simpliste. Et ce n'est pas si évident que ça. On fait exactement la même chose avec le péché. Quand on voit le danger, quand on voit quelque chose qui ne va pas dans notre vie, bien souvent, on prend un selfie. De la même manière, l'apôtre Paul ne dit pas « abandonnez-vous doucement au péché et regardez simplement dans l'autre direction tout en marchant calmement vers l'enseignement de Dieu ». Au contraire, il dit « fuyez ». Paul nous exhorte à fuir ces choses, à fuir le péché. Le mensonge des faux prédicateurs, ici qui est la cupidité et l'erreur doctrinale. Et qu'est-ce que cela reflète pour nous aujourd'hui ? Nous devons fuir les églises qui ne sont pas centrées dans la parole, fuir la théologie de la prospérité, fuir les enseignements en faveur de l'homosexualité. En faveur de l'homosexualité, pas des homosexuels. Nous devons aussi avoir de l'amour pour les homosexuels. Fuir les discussions vaines, et j'en passe. Mais aussi dans nos vies, nous sommes appelés à fuir le péché. Nous sommes en danger face au péché, car le péché est dangereux. Et son salaire, c'est la mort, comme nous dit Romains 6, au verset 24. Ça ne vous est jamais arrivé d'être devant votre télévision, vous regardez une série ou un film sur Netflix, par exemple, et au moment de la pub, vous tombez sur une scène de sexe. Et là, vous faites quoi ? Vous dites, je suis mature dans la foi, donc ça va passer, ça ne dure que 20 secondes, et voilà, ça passe. Ou est-ce que vous prenez votre courage à deux mains et vous changez de chaîne ou vous éteignez la télévision ? La solution, les amis, c'est fuir le plus loin possible. Car on ne veut pas mettre notre désir avant celui de notre Dieu Tout-Puissant. Paul n'a pas dit à Timothée, fuis quand tu te sens faible, et quand tu es fort, tu peux rester. Non, il lui a dit, fuis autant de fois qu'il est nécessaire. On n'a pas le temps d'étudier ou d'analyser le péché. Quand on entre dans une discussion malsaine ou divisionnaire, par exemple, il faut fuir. Ne pêche pas pour des futilités. Tout cela me fait penser à un personnage dans la Bible, qui est bien connu, Joseph, en Genèse 39. Donc Joseph a été vendu et acheté comme esclave par un homme qui s'appelle Potiphar. Et cet homme-là était très reconnu, c'était un haut fonctionnaire en Égypte. Et donc il lui a confié tout ce qu'il possédait, mis à part sa femme, heureusement. Et vous connaissez l'histoire. La femme de Potiphar trouvait Joseph attirant, et en l'absence de son mari, elle faisait tout pour que Joseph puisse coucher avec lui. Joseph n'a jamais cédé. Et jusqu'au jour où elle s'est mise à lui prendre ses vêtements, à lui arracher sa tunique. Et qu'est-ce qu'a fait Joseph ? Il a fui, tout nu. Il n'a pas eu honte. Donc l'enseignement de cette histoire nous montre que Joseph a voulu plaire à Dieu plus qu'à son maître. Plus qu'à son propre désir. Lisons ce que Joseph a pu dire à la femme de Potiphar avant de fuir. Au verset 9 du chapitre 39 en Genèse, « Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Joseph n'a pas cédé par la puissance séductrice de cette femme. Il n'a pas cédé à sa richesse. Vous imaginez quand même ce qu'il a pu ressentir, un homme comme vous et moi, pécheur. Sans Dieu, on ne peut pas faire des actes comme ça. Il s'est soucié davantage de son maître, Potiphar, mais davantage encore de Dieu. Il a mis Dieu en avant, avant son propre intérêt. Et cela lui a évité d'avoir une relation qui aurait pu tourner à l'adultère. Si nos désirs ne sont pas fixés sur ce qui est bon, s'ils ne sont pas fixés sur Dieu, si nous ne poursuivons pas Dieu et sa parole, nous n'aurons jamais le pouvoir d'arrêter la poursuite de ce qui est mauvais. Et l'apôtre Paul le sait très bien, et il nous enseigne dans ce verset, et il le dit en d'autres termes, « Fuis le péché et poursuis ce qui est juste aux yeux de Dieu. » Un homme et une femme de Dieu se reconnaît par ce qu'il fuit, car il veut se rendre dépendant de lui pour le glorifier, rechassant le péché par la puissance de Jésus dans sa vie, par la puissance du Saint-Esprit qui l'y habite. Il veut éviter à tout prix ce qui peut l'éloigner de sa relation avec Dieu. Et un péché est un péché, il faut le nommer comme il se doit. Il n'y a pas de péché mignon ou de petit péché. Un péché est un péché. Tout comme Joseph, nous devons fuir le péché de manière héroïque pour le Saint-Nom de Jésus-Christ. Et comment fuir le péché ? Premièrement, en ayant une relation intime et personnelle avec Dieu. La seconde manière de pouvoir aussi fuir le péché est de pouvoir lire sa parole, de pouvoir se ressourcer chaque jour et de vivre authentiquement une vie de piété. Et c'est ce que nous allons voir à présent. Donc, sur notre deuxième point, je vais relire la deuxième partie du passage. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Un homme et une femme de Dieu se reconnaît pour ce qu'il fuit, mais aussi pour ce qu'il recherche, à savoir la sainteté. Et Pierre nous dit dans sa première lettre, au chapitre 1, versets 14 à 16, il dit « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. » Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et les six caractéristiques que nous voyons dans ce passage sont donc des exemples de qualités que le croyant doit cultiver jour après jour, doit poursuivre jour après jour. Ces exemples sont simplement en fait un échantillon de tout ce que nous devons cultiver. Il y a aussi les fruits de l'esprit, il y a aussi d'autres choses comme la prière. Ces choses-là, c'est la parole de Dieu qui nous le donne. Et si nous ne lisons pas la parole de Dieu, si nous ne cherchons pas à vivre selon la parole de Dieu, nous ne saurons jamais comment poursuivre ces qualités spirituelles. Et toutes ces qualités, on peut les résumer en une, qui est aussi écrite dans ce verset, la piété. Mais avant, très rapidement, je voudrais qu'on puisse voir chacune de ces qualités que Paul a écrites. La première, Paul dit « recherche la justice ». Donc la justice renvoie au fait d'agir correctement envers Dieu et envers les hommes. C'est une conduite de sainteté que l'homme de Dieu doit rechercher, car Dieu est un Dieu de droit et de justice. Il veut que notre manière de vivre soit dans l'obéissance à sa parole. Concrètement, dans nos vies, cela se caractérise par le reniement au péché, en le reflétant et en donnant en retour aux hommes ce que Dieu nous offre. Puis Paul dit, recherche la justice, je vais sauter, la piété, la foi. La foi, c'est une pleine confiance en Dieu. C'est croire en son Fils Jésus qui nous a fait connaître le Père et qui s'est fait connaître à tous. On croit fermement en sa puissance, en sa parole, à son plan pour l'humanité, en sa promesse. Et on espère aussi que Jésus reviendra. On a tous la ferme assurance, si vous l'avez accepté, que le Seigneur viendra et accomplira sa parole. Troisièmement, Paul dit « recherche la justice, la piété, la foi, la charité, l'amour ». L'amour, ça marche par volonté, par choix, comme dans un couple. En ayant reçu Christ, nous avons choisi de l'aimer. Lui qui nous a aimés le premier, nous devons à notre tour l'aimer et aimer notre prochain. Aimer son prochain, c'est aimer sa création, aimer sa créature. On a été fait à l'image de Christ, à l'image de Dieu. Et donc quand je parle à un frère, à une sœur, quand je parle à un autre être humain, je parle aussi à la création de Dieu. C'est aussi un acte d'amour. Donc faisons attention à ce que nous disons. Quatrièmement, Paul dit « recherche la patience ». Donc en grec, le mot « patience » veut dire « demeurer sous ». La patience de l'homme et de la femme de Dieu lui fait supporter toutes les difficultés de la vie spirituelle et physique. Sa patience le rend capable d'accomplir sa mission, quoi qu'il lui en coûte, en vue d'atteindre le but glorieux quand Jésus-Christ reviendra. Et dernièrement, Paul dit à Timothée, recherche la douceur. La douceur désigne la gentillesse humble, celle que le croyant reconnaît qu'il ne contribue personnellement en rien à son succès et qu'il fait preuve d'une grande humilité. Dans ce verset, Paul encourage Timothée à poursuivre les richesses spirituelles à l'opposé des richesses mondaines, celles du monde. C'est un encouragement qui lui sera aussi répété dans sa deuxième lettre à Timothée, où il exhorte de manière à fuir les passions de la jeunesse et à rechercher à vivre de manière pieuse. Nous le voyons au chapitre 2, verset 22. En d'autres termes, son exhortation porte sur l'homme qui se veut au service de Dieu et qui cherche à lui plaire. Et comment l'homme et la femme de Dieu peut-il plaire à Dieu? Lisons-le en 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. L'homme et la femme de Dieu doivent se laisser guider par la parole et vivre de manière pieuse en pratiquant de bonnes œuvres, qui surviennent seulement quand nous avons une vraie relation sincère avec notre Dieu. Regardons aussi dans 1 Timothée 2, versets 1 à 2, il dit « L'apôtre nous enseigne comment prier pour tous les hommes et en particulier pour les autorités. » Il dit au chapitre 2, verset 2, « Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Ainsi, il explique aux églises des membres, aux églises locales, à mener une vie pieuse individuellement, mais aussi collectivement dans l'église. Cela doit se refléter, cela doit se voir à l'extérieur. Une église doit rayonner à la même image que dans l'Apocalypse, les chandeliers. Nous devons aussi rayonner dans notre secteur. Et plus loin, verset 10, il parle des femmes de l'église d'Éphèse, qui étaient bien connues pour leurs beaux habits, pour leurs bijoux, pour leurs belles coiffures. Ça aussi, c'était culturel. Et Paul leur demande qu'elles ne soient pas reconnues seulement pour leur physique, mais il dit au verset 10, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu. Ici, Paul enseigne aux femmes d'Éphèse qu'elles soient parées de piété plutôt que de l'esthétisme mondain. Il encourage les femmes d'Éphèse à qu'elles soient reconnues premièrement et prioritairement par une attitude et un caractère de piété. Dans notre verset d'aujourd'hui, Paul affirme que la piété se vit dans le contentement. Il le dit précédemment, toujours au chapitre 6, versets 6 à 8. C'est en effet une grande source de gain qu'est la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais qu'est-ce que la piété ? Je ne l'ai pas détaillé avant. La piété est une qualité qui devrait caractériser chacun d'entre nous, individuellement, mais aussi collectivement dans l'Église. Être pieux désigne notre dévotion envers Dieu. C'est rechercher un attachement radical à Dieu et une autodiscipline personnelle. C'est savoir veiller sur soi-même, c'est savoir aussi veiller les uns sur les autres, veiller sur l'enseignement de la parole, comme nous le dit 1 Timothée 4, verset 16. C'est donner toujours du temps pour son Dieu, lui qui nous a tout offert. Lui qui nous a aimés le premier, lui qui nous a donné son Fils, lui qui nous a donné sa parole, lui qui nous a donné sa promesse. Alors pourquoi pas prendre plus de temps pour notre Dieu qui nous a tout donné ? Dieu nous a donné la santé, nous a donné l'argent, nous a donné l'intelligence, nous a donné un travail, enfin toutes choses. Comment ne pas lui donner plus de nous-mêmes ? Donnons-nous à lui chaque jour. Et cela construit notre caractère d'homme et de femme de Dieu. Et comme vous le savez, je fais pas mal de sport. Et le sport, il faut être régulier. Il faut avoir une bonne diète, il faut avoir un bon entraînement, un bon repos. Et tout ça, ça coûte. Ça coûte de l'effort, ça coûte de la patience, parce que ça prend du temps. Et ça demande une certaine rigueur. Il y a un dicton qui est souvent dit au bodybuilding, c'est « no pain, no gain ». Donc, littéralement, pas de douleur, pas de gain. Et donc, si nous voulons croître en piété envers notre Dieu, nous devons nous autodiscipliner à la même image que l'athlète qui se prépare pour une course. La piété exige donc une discipline. Et cela n'arrive pas comme ça. C'est pourquoi, dans ce texte, Paul exhorte Timothée à poursuivre. Donc c'est quelque chose qui se fait au quotidien et dans le temps. Donc pour terminer, je voudrais vous dire que la piété est une discipline que l'on doit suivre, comme le compare Paul en 1 Timothée 4, verset 8, à l'entraînement. Il évoque un entraînement rigoureux, une disciplinaire et plein de sacrifices auxquels se soumet un athlète. À l'époque, c'était dans l'air du temps. Donc chaque ville avait son gym, un peu comme aujourd'hui, on est revenu à l'ancienne. Donc tous les 16-18 ans avaient l'obligation d'être formés physiquement. Donc ça durait environ 2 ans. Et donc on pourrait supposer que Timothée n'y a pas échappé et qu'il était aussi dans cette culture-là. Et donc c'est pour ça que Paul pousse Timothée à s'exercer davantage à la piété qu'à l'exercice physique. Car l'exercice physique est pour un temps, il est pour notre vie terrestre, alors que l'exercice à la piété, c'est pour notre vie ici-bas, mais aussi notre vie éternelle. Sachez que la piété provient de la grâce de Dieu qui œuvre dans nos vies. Et ainsi, mes amis, la piété commence par l'Évangile. Être dépendant de Dieu, avoir confiance en Jésus-Christ seul et en son salut. Il ne faut pas simplement accepter l'évangile, mais il faut le vivre. Il faut vouloir être pardonné et transformé par le renouvellement de l'Écriture. La piété, mes amis, est que Dieu nous l'accorde en tant que croyants dans nos vies, mais aussi qu'il nous l'accorde dans l'Église. Voilà. Merci.